Bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles, soutenu cette année à nouveau par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Amoureux des chiens, passionnés d'éducation canine, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées. Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leurs maîtres et les bouleversements à leur arrivée. Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. Dans cet épisode, je vous présente Virgile et Oreo, son chien guide de l'école de Lyon et du Centre-Est. Aveugle de naissance, Virgile découvre très jeune l'existence des chiens guides d'aveugles et est immédiatement convaincu qu'il en aura un à ses côtés un jour. Rapidement, il a l'occasion de bénéficier d'un des premiers chiens guides pour adolescents et commence une longue vie aux côtés des chiens guides d'aveugles pour lesquels il s'investit bénévolement. Aujourd'hui secrétaire de l'association des chiens guides de Lyon, comment combiner ce rôle d'administrateur tout en étant bénéficiaire? Et quels sont les avantages et inconvénients? De ses débuts avec Mireille France, devenue aujourd'hui la fondation Frédéric Gaillane, à son quotidien d'ambassadeur du mouvement chien guide, Virgile revient pour nous sur toute son aventure auprès des chiens guides aveugles, de son adolescence à ses nombreuses responsabilités aujourd'hui. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Virgile.
Bonjour Estelle.
Merci d'avoir accepté mon invitation sur mon podcast Futur Chien Guide. Tout d'abord, je dois dire qu'on a essayé d'enregistrer l'été dernier, et puis je viens de re-regarder dans mon téléphone, en fait c'était même pas une semaine avant que mon petit baby boy arrive. Donc finalement, on a bien fait de reporter, je crois que toi comme moi, nous étions plus disponibles ces jours.
Exact, parce que moi, l'été dernier, c'était au moment des vacances où j'étais hors de France et sans PC, donc ça aurait été compliqué aussi.
Voilà, donc on enregistre finalement quelques mois plus tard, mais en tout cas, ça ne change en rien à l'enregistrement et à l'envie qu'on avait d'échanger ensemble pour le podcast. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter rapidement?
Donc, moi, je suis Virgile, je suis déficient visuel, je suis accompagné d'Oreo, mon quatrième chien guide. Je suis donc à l'association des chiens guides d'aveugles de Lyon et du Centre-Est. Je suis déficient, donc non-voyant, on va dire les choses clairement, non-voyant de naissance. Donc, c'est vrai que le peu que j'ai vu, je m'en rappelle pas du tout. Mais ça m'empêche pas de faire mille et une choses et d'être ultra actif, si je peux dire. Aussi bien au sein de l'association des chiens guides où j'ai différentes responsabilités que du mouvement chien guide dans son ensemble. Où j'ai aussi quelques responsabilités.
Et l'école des chiens guides de Lyon et du Centre-Est, du coup, c'est la première fois qu'on en parle sur le podcast, alors que c'est quand même ma région d'origine et la première école auprès de laquelle je m'étais renseignée pour devenir famille d'accueil. Ouh là là, ça remonte à l'entrée de mon lycée. Et il en a fallu du temps, plus de 55 épisodes pour arriver jusqu'à toi.
Comme quoi tout arrive.
Voilà, mais j'attends encore de réaliser mon projet un jour. Je pense qu'il se rapproche. Est-ce que, de ton côté, les chiens guides, c'est quelque chose que tu connaissais dès très jeune? Parce que, bon, on va pas dire ton âge, mais 4 chiens guides à ton actif, c'est que tu as commencé très jeune, on le sait. Comment ça s'est déroulé pour toi? Tu étais, j'imagine, à la canne en premier?
Alors oui, obligatoirement, j'ai été à la canne en premier. Et ce qui m'a donné le premier rapport auprès du chien guide, c'est que j'ai eu l'opportunité, petit, on va dire à l'âge de 9 ans, parce qu'on va dire les choses comme elles sont, j'ai eu l'opportunité d'aller visiter l'école de chien guide de Paris. Et en fait, en sortant de là, je me suis dit, mais plus tard, j'aurai un chien guide. C'est sûr, je veux un chien guide.
Tu étais dans le secteur parisien, c'est ça?
Oui, parce qu'en fait, moi d'origine, je suis de la région d'Orléans, donc vraiment Centre-France. Et c'est pour ça qu'on était venu visiter sur l'école de Paris. Et donc, je m'étais dit, j'aurai un chien guide. Et ben forcément, on ne donne pas de chien guide aux personnes ayant moins de 18 ans. En tout cas, c'était la politique à ce moment-là. Et j'ai bénéficié d'une chance extraordinaire, qui est celle d'avoir vu une émission qui est 30 millions d'amis et qui présentait un projet qui commençait à se concrétiser en France, qui était de pouvoir remettre des chiens à des personnes déficientes visuelles mineures. Donc là, forcément, le projet était extrêmement intéressant. Mes parents m'ont accompagné pour cette démarche. J'ai eu l'opportunité de pouvoir aller faire une semaine d'essai, de pouvoir aller un petit peu tester tout ça, voir quelles étaient les aptitudes, les prérequis. Et puis, j'ai eu une chance absolument extraordinaire d'avoir mon premier chien guide à l'âge de 14 ans.
Est-ce que donc, tu nous parles de la fondation Frédéric Gaillane qui s'appelait Mira France avant ?
Qui s'appelait Mira France, ouais, c'est ça.
Ouais, ok.
Donc Mira France qui est une émanation de la fondation Mira au Québec, hein, ça remonte...
Oui, ça remonte exactement.
Remonte-moi dans l'histoire.
Et c'est vrai que pour le coup, la fondation, j'en ai quand même pas mal parlé sur le podcast. Je pense que tu as pu suivre, avec... Il y avait Bérénice que j'ai interrogé dans l'épisode 28. J'ai aussi accueilli moi-même en stage du côté des chèvres Anaïs et son beau Mozart que j'ai interviewé aussi dans l'épisode 35.
Ah bah oui, oui, oui.
Il y a aussi Marine avec Odor que j'ai interviewé dans l'épisode 43. Et un petit dernier qui n'a pas un chien guide, mais qui est un chien quand même remis par la fondation Frédéric Gaillane, puisqu'ils font aussi les chiens d'éveil, avec du coup Guillaume et Oméga, qui est donc Oméga est une chienne éduquée aussi par la fondation Frédéric Gaillane.
Oui, d'ailleurs, les chiens d'éveil, c'était aussi un projet en parallèle avec l'université Lyon 2.
Mm-hmm. Donc toi, tu bénéficies de ton premier chien qui s'appelait comment, du coup ?
Georgie.
Et est-ce que c'était déjà un beau Saint-Pierre ? Ou alors on était plus...
Ah non, c'était une magnifique labrador.
Ah, d'accord, labrador sable, donc...
Parce que le Saint-Pierre est arrivé tardivement. C'est-à-dire qu'avant d'avoir le Saint-Pierre, il y avait déjà... la première génération du croisement Bouvier-Labrador qu'on appelait le Labernois, que j'ai eu en deuxième chien guide d'ailleurs, parce que j'ai eu l'opportunité, la chance pour mon deuxième chien guide d'aller au Québec directement, d'aller passer un mois au Québec, pays que je recommande.
D'accord.
Franchement, des gens super gentils, super agréables. Franchement, moi, j'en garde un très très bon souvenir.
Et du coup, ils t'avaient remis un deuxième chien directement là-bas ?
Ouais, ouais. Ils m'ont remis un deuxième chien directement là-bas, donc qui, elle, s'appelait Lansing. Et puis, entre-temps, le Mira France a évolué, c'est devenu Mira Europe. Et puis, la fondation Frédéric Gaillane, comme on le sait après.
Ok.
Et puis, en 2010, ma deuxième chienne arrivant à l'époque de la retraite, c'est là où j'ai basculé vers l'école de chien guide de Lyon, où j'avais déjà rencontré un de leurs éducateurs quelques temps avant, et du coup, j'ai repris contact à ce moment-là.
D'accord, donc en fait, là, c'est ton quatrième chien qui vient comme le troisième de l'école de Lyon, parce que moi, je t'ai croisé avec le troisième, je crois.
Alors, tu m'as croisé...
On s'est croisé plusieurs fois.
Oui, plusieurs fois. Avec le troisième, oui, et au congrès, j'étais avec le quatrième.
Oui, c'est ça. Le troisième s'appelait...
Dipsy.
C'est ça. Et je t'avais croisé avec Dipsy dans la gare de Pardieu, par hasard, je crois.
C'est ça, tout à fait.
C'était rigolo, d'ailleurs.
Oui, oui, mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est ces rencontres qu'on peut faire comme ça, et on en parlera un peu plus tout à l'heure dans le podcast. Mais ça fait partie des rencontres extraordinaires qu'on peut faire avec les chiens guides.
Et du coup, comment t'as vécu, toi, à 14 ans, d'avoir ton premier chien guide ? C'était quelque chose que t'attendais depuis longtemps ?
Ah, c'est quelque chose que t'attends depuis longtemps, et puis dans ces cas-là, c'est une liberté qui t'est ouverte. C'est-à-dire que moi, j'habitais à l'époque dans un petit village de campagne où mes parents hésitaient quand même beaucoup à me laisser sortir tout seul avec la canne parce que, je veux dire, c'est de la campagne, hein. Il y avait le tracteur du fermier qui venait de nourrir les vaches qui était dans le champ d'à côté. Il y avait, enfin bon, tout ce qu'on peut trouver dans un petit village de campagne finalement. C'est vrai que quand j'ai eu le chien, ils m'ont beaucoup plus laissé sortir de façon autonome et au contraire, même en me disant « bon, tu peux aller ». Et puis, au-delà de ça, y a tout l'aspect scolaire qui va avec. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on passe un peu du statut non-voyant classique au statut un peu superstar parce que « ouais, super, il est avec le chien au collège et avec le chien en classe ». Et forcément, tout le monde vient voir, tout le monde est curieux. Bon, ça donne des anecdotes parfois assez cocasses, mais c'est ça aussi qui est extraordinaire.
Donc ça t'a pas mal aidé dans la socialisation aussi, comme on le dit souvent au micro de ce podcast.
Complètement, tout ce qui est sociabilisation, tout ce qui est dépassement de soi, parce que ça je crois que c'est aussi extrêmement important.
Mmh. Et alors, tu nous as parlé du Québec, mais comment tu en viens, quelques années après avoir fait appel du coup à la fondation Mira France, à vraiment partir ? Est-ce que c'est eux qui t'ont encouragé à partir ? Ou est-ce que tu t'es dit « allez, je vais aller le chercher à la source » ? Comment ça se passe ? À ce moment-là, t'étais mineur ou t'étais déjà majeur ?
Alors, j'étais déjà majeur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première fois, on était 6 récipiendaires donc en France à avoir des chiens. Mm-hmm. Donc, ils sont venus avec les chiens directement. Comme on était moins nombreux, ils nous ont carrément invités à venir là-bas.
Ok, parce que ton premier chien, du coup, ce beau labrador sable dont tu nous as parlé,
c'est ça,
avait été éduqué directement au Québec, mais était venu en France pour la remise.
Voilà, elle avait été éduquée au Québec et après, elle fait partie du cheptel de chiens qui sont venus.
Ok.
Donc, ont pris l'avion. Il y a eu 9 chiens qui ont pris l'avion pour 6 remises. Parce que faut toujours en avoir un peu plus. On sait que tous les chiens ne conviennent pas toujours.
Pour créer les binômes le plus fusionnel possible.
Et complètement, c'est ça.
Ok, ah, je savais pas que les débuts de la fondation. J'ai pas encore lu le magnifique livre de Frédéric Gaillane.
Les débuts de Mira France, ça a vraiment été en 93 où il y a eu un monsieur qui a été faire un raid de 3 semaines en chien de traîneau là-bas et où ils remettaient déjà au Québec des chiens pour les ados. Et où ils ont commencé à se dire, tiens, pourquoi pas essayer de se développer. Et puis, ils sont venus en France, ils ont regardé la faisabilité et comme il y avait quand même finalement de la demande qui pouvait se faire, et ils ont commencé le projet.
Ok, donc c'est pour ça que la deuxième fois, les chiens ne sont pas venus à vous, c'est vous qui êtes venu auprès des chiens directement.
Exactement.
D'accord. Bon, et puis après, tu es passé dans le monde des grands.
Après, je suis passé dans le monde des grands, et puis parce que aussi, à un moment donné, les statuts de l'association avaient changé, etc. Donc bon, c'est vrai que je me suis rapproché aussi de l'école de proximité, ce qui est quand même un plus. Parce que c'est vrai, quand il y a une difficulté avec le chien, le fait d'avoir une école à proximité... Les éducateurs peuvent quand même intervenir beaucoup plus rapidement. Alors que quand l'école est au Québec, on vous dit, écoutez, on sait qu'il y a des problèmes à régler. On a un éducateur qui viendra dans 3-4 mois. Il va passer un mois en France, il fera le tour de tout le monde et puis voilà. Mais sauf que quand le chien est attiré par des pigeons, par exemple, c'est compliqué d'attendre 3-4 mois. Et dans ce cas-là, on essaie de chercher des solutions autres. Mais c'est ce qui donne aussi de l'expérience.
Oui. Parce qu'aujourd'hui, tu en as ton 4e chien. Alors, j'imagine qu'ils ont tous été très différents. Hein. C'est pas des copier-coller.
Ah, pas du tout. Il y a des traits de caractère qui se retrouvent de certains à d'autres. Mais d'entre Georgie, ma Labrador pur, Lansing, la Labernoise, Dipsy, le croisé Golden Labrador et Oreo que j'ai maintenant, qui est Labrador pur, il y a des traits de caractère différents, mais c'est comme les humains. Hein. J'ai envie de dire, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Il y en a qui vont exprimer certaines choses d'une façon, d'autres d'une autre. Et tout ça, ça demande un peu d'adaptabilité. Et à chaque fois, ça demande aussi, quand on a ces renouvellements, d'arriver à se remettre en question.
Parce que ton dernier renouvellement, du coup, Oreo est arrivé quand auprès de toi ?
Ah, Oreo, c'est une grande histoire. Oreo, en fait, je l'ai testé fin février 2020. Et puis, l'éducatrice me dit, il est en fin d'éducation, si tout va bien. On prend l'agenda, on regarde un peu, on programme ça pour le 14 avril. Ok, c'est parfait, 14 avril.
2020.
16 mars, confinement.
Eh oui.
Bon, tout par terre. Donc, le chien qui devait arriver, et où là, on se dit, chouette, je vais avoir un chien, parce que l'autre, il est en retraite depuis près d'un an, et que la canne, j'en ai un petit peu marre. Non, tu reprendras encore la canne pendant quelques mois. Du coup, les essais que je devais faire fin mars, je les ai fait au mois de juin. Et puis, la remise qui devait être en avril, s'est faite en septembre.
Bah oui, du coup, ça a tout décalé.
C'est ça.
Oui, parce que on avait vu Dipsy, c'est ma maman qui m'avait envoyé une photo. Tu étais intervenu, on en parlera dans tes nombreuses casquettes, tu étais intervenu sur RCF, la radio Cato.
Oui, tout à fait.
Qui est hébergée à l'université Cato de Lyon, à côté de Perrache, où travaille ma maman, donc pas dans la radio.
D'accord.
Et vous étiez croisés avec, il y avait Caro qui était avec toi.
Oui, exact.
Caroline, à qui on fait un petit coucou. Et puis, du coup, c'était maman qui m'avait dit, parce que moi, je savais que Caroline allait y être, j'avais missionné maman de faire une toute petite photo pour moi.
Ah, mais je me souviens de ça.
Et oui, c'était ma maman.
Ah, d'accord, mais je me souviens très bien de ça en plus.
En préparant l'épisode, j'ai remis un petit peu toutes les fois où nos chemins se sont croisés, au final, 2-3 fois déjà, avant cet enregistrement d'épisode. Donc, c'est pas anodin.
Ah, tout à fait.
À la gare Pardieu, c'était complètement par hasard. Là, on avait un petit peu forcé le destin quand même avec ma maman.
Ah oui, mais...
Bon, au congrès chien guide dernièrement, au mois de juin, c'était encore autre chose.
Exact.
C'était plutôt moi qui étais nouvelle dans le congrès plutôt que l'inverse, surtout que vous l'accueilliez à domicile à Lyon. Donc...
Ah bah oui. Et puis surtout qu'en plus, j'ai même été intervenant sur ce congrès. Donc...
Et oui. D'ailleurs, on parle de ce congrès. Donc, c'est le congrès de la Fédération Française des Associations de Chien Guide, la FFAC qui soutient d'ailleurs ce podcast. Toi, en dehors d'être bénéficiaire de chien guide pour l'école de Lyon en ce moment, tu es quand même beaucoup plus investi qu'un simple bénéficiaire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu es arrivé au poste que tu occupes aujourd'hui ? J'imagine que ça a été progressif et comment tu es rentré dans cet engagement ?
Alors, moi, je suis arrivé donc à l'école de Lyon en 2010. Rapidement, c'est vrai que j'avais déjà occupé des postes d'administrateur précédemment quand j'étais à Mira, etc.
D'accord.
Et puis, c'est vrai que j'avais toujours cette volonté d'avoir un engagement fort et parce que j'ai envie de dire que pour moi, on a cette remise gratuite de chiens qui est quand même pas rien pour les associations. Mmh. Et je trouve que c'est important qu'on soit pas simplement des consommateurs, mais qu'on puisse d'une façon ou d'une autre un petit peu leur rendre de notre temps, leur rendre un peu de, pour vraiment pouvoir les accompagner dans leur mission. Et du coup, je suis rentré au conseil d'administration de Lyon en 2011. Mmh. Où je suis toujours, donc maintenant je suis secrétaire dans ce conseil d'administration. Mais en plus de ça, si je dois un peu dévoiler toutes mes casquettes du coup, ben je suis aussi administrateur donc pour représenter l'école de Lyon au conseil d'administration du CZK, donc qui est le centre d'élevage. Mmh. Et je suis administrateur à la FH2A, donc qui est le centre de formation pour les moniteurs et éducateurs.
Ok.
Et ce qui m'a vraiment amené à essayer d'avoir ces compléments de postes, c'est vraiment une question aussi d'arriver à accompagner dans l'ensemble du parcours ce que peuvent être nos chiens, ce qu'ils peuvent rapporter, et puis aussi apporter mon expérience de maître de chien guide dans des attentes que l'on peut avoir aussi bien auprès des éducateurs et moniteurs que bah, avoir un lien fort aussi entre les écoles et le centre d'élevage, parce que si les écoles ont besoin du centre d'élevage, le centre d'élevage a besoin des écoles parce qu'il y a aussi des retours qui sont importants dans tout ça pour que le centre d'élevage puisse continuer à travailler sur les lignées et puisse nous faire des chiens de plus en plus performants.
Oui, donc tu as au fur et à mesure accumulé toutes ces casquettes en toute cohérence, hein, bien sûr.
C'est ça.
Puisque du coup, ton rôle donc secrétaire aujourd'hui de l'école des chiens guides de Lyon. Alors, un petit précis sur l'organisation, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, mais les écoles sont des associations, d'où loi 1901.
Tout à fait.
Et donc, dans ce cadre-là, il y a deux échelles d'actifs, on va dire. Il y a le conseil d'administration et les adhérents, qui sont bénévoles plus ou moins impliqués selon leur quotidien. Et il y a les salariés.
C'est ça.
Qui donc, eux, sont salariés de l'association, sont payés par l'association, ce qui n'est pas le cas des administrateurs.
Non.
Enfin, en dehors remboursement de frais, etc., j'imagine.
Oui.
Comme dans toute association. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien la différence pour les gens qui ne sont pas forcément habitués à ces fonctionnements d'association, c'est qu'il peut y avoir les deux qui cohabitent, donc les bénévoles, les administrateurs du conseil d'administration, et de l'autre côté, les salariés.
Pour donner deux mots rapidement, mais le conseil d'administration a pour vocation de mettre en place les lignes directrices qui vont permettre à l'association d'avancer. Mmh. Dans ce conseil d'administration et en partenariat, donc souvent, bah, on a un directeur général qui lui est un peu le bras armé du conseil d'administration, si je puis dire, pour justement essayer de mettre en œuvre ce qui a été décidé au sein des instances.
Voilà. Et donc, ce conseil d'administration, dans nos associations de chiens guides fédérés, en général, c'est un mélange de déficients visuels et de voyants. Il y a un petit peu de tout, plus ou moins de personnes qui ont été actives avant dans les associations. Enfin, ça, de toute façon, c'est la vie des associations directement.
Complètement.
Qui est régie par une assemblée générale, qui élit donc ses membres. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément sur le podcast. Pour ma part, je suis membre de nombreuses associations, pas forcément que de chiens guides, aussi chiens d'assistance. Pas membre d'un conseil d'administration, non, là, entre le baby boy et le podcast, je pense que pour l'instant, j'ai assez en termes de
chiens. Il y a bien à s'occuper des gens.
Voilà. Mais je suis très présente à chaque assemblée générale de l'école de Paris et ça permet de comprendre un peu mieux. Puis j'ai une petite déformation professionnelle puisque du côté des chèvres, nous fonctionnons aussi en association. Alors, c'est pas du 1901 parce que c'est du syndicalisme, mais ça reste cette dualité avec des salariés dont je fais partie pour ce coup et des conseils d'administration, dans mon cas d'éleveur de chèvres.
D'accord.
Donc voilà pour cette petite précision. Donc toi, tu es administrateur dans au moins trois associations dont tu nous as parlé, donc l'école, le CZK. Donc le CZK, pour le coup, tu nous as parlé du réseau d'élevage. C'est vrai que c'est un petit peu la base des associations. Sans le CCK, c'est compliqué d'avoir autant de chiens. Alors, certaines écoles ont des élevages, mais qui font partie du réseau d'élevage des écoles fédérées.
C'est ça.
Et le CCK, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on en a beaucoup parlé avec Elodie dans l'épisode 42, qui, elle, est famille d'élevage d'Opal pour le CCK. Donc, Opal étant une superbe bergère allemande qui, donc, fait des petits chiots qui deviennent chiens guides.
C'est ça.
Et le FH2A, bah là, je vous encourage à aller lire mon compte-rendu du congrès de chiens guides du mois de juin. J'en parle beaucoup, puisqu'il y a eu, comme tu le disais, des interventions sur le sujet.
Tout à fait.
Et que ça permet de comprendre un petit peu comment sont organisées les formations d'éducateurs, de moniteurs, mais pas que.
Mais pas que, parce que ça peut encadrer aussi certaines formations qui sont réalisées à la fédération. Sous l'impulsion de la FH2A, peuvent être mises des formations en place pour les bénévoles, pour les administrateurs aussi d'ailleurs. Différentes formations qui peuvent être dispensées à la fédération.
Et il me semble que tu as aussi une casquette du côté du comité Louis Braille.
Alors oui, comité Louis Braille, je représente, c'est vrai que j'y ai pas forcément pensé, mais le comité Louis Braille qui est un collectif qui représente une vingtaine d'associations sur Lyon. Et donc moi j'ai pour mission de représenter les chiens guides auprès du comité Louis Braille. Et donc je suis vice-président du comité Louis Braille.
Donc ça fait beaucoup de casquettes pour quelqu'un qui est quand même très actif.
C'est pour ça que je dis que bénévole était un métier, finalement, on arrivera à faire un 35 heures par semaine sans problème.
Oui, parce que rassure-nous, tu n'as pas d'activité professionnelle à côté à combiner.
Non.
Voilà.
Non, mais ça a été un choix aussi. Oui. Hein, c'est que moi, je me plais dans ce que je fais et j'ai plaisir à aller aussi bien dans tous ces lieux où on peut présenter le chien guide, tout ce qu'il fait et le handicap dans son ensemble.
Bien sûr.
Et donc, ça a été un choix aussi de rester comme ça. Et puis, c'est vrai que je suis quand même beaucoup investi avec l'école de Lyon, au travers de commissions, au travers de différentes choses, au-delà du poste de secrétaire et d'administrateur. Donc, à un moment donné, on peut pas être partout et on peut pas être très efficace partout. Donc, moi, j'ai fait ce choix de faire ça.
À tel point que tu as une adresse mail pour l'école des chiens guides de Lyon.
C'est ça.
Dans nos échanges, ça me fait sourire. Mais voilà, comme quoi c'est quelque chose, être administrateur qui prend du temps. Alors surtout quand on s'investit un petit peu dans différentes situations, comme je disais, bien en cohérence hein, sur la représentation du chien guide dans ton cas.
Bien sûr.
Est-ce que du coup, de ton point de vue, être à la fois bénéficiaire et administrateur, quels sont les avantages et les inconvénients pour toi d'avoir un petit peu ces deux postes, un peu ces deux points de vue ?
Bah, être bénéficiaire et administrateur, le côté bénéficiaire, on apporte quand même une connaissance et une expérience du terrain et de ce qu'on vit au quotidien avec les chiens. Et ce qui peut permettre aussi, dans certains cas, d'arriver à dire... si vous avez envie de prendre telle décision pour les chiens, je sais pas, par exemple, il est important d'avoir un vétérinaire référent, c'est bien de mettre ça en place, pourquoi pas mettre des séances d'ostéopathie ou pourquoi pas, enfin, j'ai envie de dire, il y a tout le côté financier, bien évidemment. Il y a toute une partie comme ça, mais il y a aussi, parce qu'après, il y a des commissions qui sont créées sous l'impulsion du conseil d'administration, qui vont permettre, par exemple, de dire comment on va constituer les binômes, parce que même si les éducateurs le font, nous, on essaie aussi d'accompagner là-dessus, qui vont permettre aussi de dire, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les chiens guides soient éduqués au mieux, comment on peut améliorer les remises ou les renouvellements. Enfin, il y a mille et une questions, j'ai envie de dire, qui peuvent se poser à un moment donné. Parce qu'on a aussi une société qui évolue, un environnement urbain qui évolue. Faut arriver à le prendre en compte dans les éducations des chiens, dans la mise en application aussi des différents ordres qu'on va donner aux chiens. Et aussi un échange permanent avec les éducateurs, avec d'autres administrateurs, avec des familles d'accueil. Ça fait partie un peu, c'est inclus dans un lot.
Oui, et puis du coup, ça te permet aussi d'apporter... tu parlais d'expérience par rapport au fait que c'est ton quatrième chien guide. Alors, c'est pas une condition obligatoire d'avoir son quatrième chien guide pour être administrateur.
Non, le redis tout de suite. Pas du tout.
Mais c'est vrai que ça permet de ton côté d'avoir un peu plus de recul sur certaines choses que tu aurais pu vivre avec chacun des chiens.
C'est ça.
Et puis, est-ce que par contre, tu vois des inconvénients quand même à occuper ce poste tout en étant bénéficiaire?
J'en ai pas trouvé vraiment pour l'instant, parce que je pense qu'après, faut aussi bien savoir faire la différence des choses.
Ouais, faut faire la part des choses là-dessus.
C'est-à-dire qu'il faut pas se dire, ah ouais, moi je suis un renouvellement de chien, je suis administrateur, vous devez me servir plus vite que tout le monde. Non, je pense qu'il faut vraiment savoir aussi rester la tête froide, se dire oui, on a un rôle d'administrateur, on a un rôle qui peut être décisionnaire pour certaines choses dans l'association, mais faut que chacun garde sa place. C'est-à-dire que je suis administrateur, mais c'est pas à moi d'aller commander un salarié ou d'aller... Ça, je pense que c'est aussi extrêmement important de bien comprendre que administrateur, j'ai des droits, j'ai des devoirs, mais j'ai aussi du respect à apporter auprès de mes compères et auprès des salariés qui travaillent. Et où il y a un directeur général qui a sa place, qui a ses lignes directrices et ses prérequis donnés par le conseil d'administration pour pouvoir justement lui piloter les salariés de meilleure manière possible.
Oui, puis en tant qu'administrateur, tu es un individu, tu es une personne. Comme tu disais, ça te permet d'apporter ton témoignage. Mais tu es aussi nommé par l'ensemble des membres de l'association pour les représenter aussi. Donc c'est un rôle individuel, mais au titre d'un collectif. Donc c'est là où il faut faire, comme tu disais, la part des choses.
C'est ça.
Servir les intérêts collectifs tout en témoignant de sa vie plutôt individuelle.
Oui, complètement. Puis pas se dire, je suis administrateur, j'ai tous les droits. Non, c'est pas vrai.
Du coup, si tu avais un conseil... à donner à quelqu'un qui se poserait la question, est-ce que je peux être administrateur tout en étant bénéficiaire, ce serait...
Le fait d'être administrateur en étant bénéficiaire, oui, c'est faisable. Après, effectivement, quand on s'engage, pour moi, dans un poste d'administrateur, déjà, faut avoir vraiment des points à apporter au conseil d'administration, parce que si ce n'est que pour avoir un titre, ça n'apporte rien à l'association. Faut vraiment avoir quelque chose à apporter dans ce conseil d'administration. Et ne pas se dire, je suis là, parce que après, souvent, les conseils d'administration sont le soir, donc faut aussi être sûr de, même si aujourd'hui, on a de plus en plus tout ce qui est téléconférence, etc., faut quand même se dire que, il faudra être amené à se déplacer, faut être amené à être présent aussi quand on vous le demande, parce que l'association a des moments importants où il est important que ses administrateurs soient présents. Donc faut bien y réfléchir, c'est possible. Après, c'est bien sûr selon vos associations respectives, mais faut le faire en tout état de cause et en pleine conscience que c'est pas simplement un titre, mais qu'on est aussi responsable des décisions qu'on prend pour l'association.
Et ça, c'est valable aussi, pas que pour les bénéficiaires,
complètement.
Pour toute personne qui prendrait ou qui se poserait la question de prendre le rôle d'administrateur, je pense qu'on peut appliquer ces conseils-là.
Exactement.
Et du coup, dans toute cette aventure auprès des Chinguides, est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu as découvert ou appris que tu ignorais avant de te lancer
J'ai appris énormément de choses, aussi bien dans le monde du travail, dans le droit du travail, je pense qu'on a déjà toujours à apprendre tout au long de notre vie, ça c'est sûr. Mais le fait de côtoyer aussi bien des gens qui vont gérer des legs que des gens qui vont gérer... parce qu'à un moment donné, peut y avoir des litiges, peut y avoir des choses comme ça. Et on apprend de tout ça. On apprend de la comptabilité, on apprend du travail, on apprend... il y a énormément de domaines, je pense, sur lesquels on peut apprendre. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est le contact avec les autres, ce que peuvent apporter les autres. Et c'est aussi toute l'importance d'un bon conseil d'administration. C'est quand l'ensemble des administrateurs vont apporter une véritable plus-value à ce conseil et du coup où la pluralité va donner énormément d'apprentissage pour les uns et les autres.
Oui, donc en fait, ça t'a permis de faire quand même beaucoup de choses dans le collectif.
Oui.
Enfin, si t'avais pas eu de chien guide d'aveugle, ta vie n'en serait pas là aujourd'hui.
Non, ma vie n'en serait pas là aujourd'hui. Et puis, je pense qu'il y a des domaines sur lesquels j'aurais peut-être jamais essayé de m'intéresser. Mais j'ai envie de dire, c'est le propre de tout un chacun.
Oui.
Comme celui qui, demain, va se dire, tiens, moi, je vais devenir taxi. S'il a envie de devenir taxi, c'est peut-être parce qu'il aime conduire. Mais le fait d'avoir envie de devenir taxi et de faire sa licence, ça va le forcer à s'intéresser sur la géographie ou sur des choses sur lesquelles, d'habitude, il n'en avait rien à faire. Mais c'est aussi ça, le fait d'aimer ce qu'on fait, c'est qu'on finalement on s'intéresse à ce qui va autour.
Oui, c'est pas uniquement avoir ton chien dans ton quotidien, mais tu nous l'as témoigné en parlant du CZK, donc de l'élevage des futurs chiens guides, La FH2A, tout ce qui est formation aussi, que ce soit des moniteurs, alors principalement quand même on va dire des moniteurs, des éducateurs, même s'il y a d'autres types de formations qui sont faites. Et puis ce titre qu'aujourd'hui tu arbores d'ambassadeur
aussi,
je dirais, des chiens guides, puisque c'est un petit peu comme ça que tu te présentes.
Ah bah c'est aussi ça, parce qu'on a une formation des ambassadeurs proposée par l'ANM Chien Guide, hein, donc qui a aussi toute son importance, parce que justement c'est arriver après à délivrer un message commun, un message fort où le mouvement Chien Guide a une seule et même voix et une seule et même parole. Mmh. Et ça, c'est aussi ce qui fait notre force quand on va auprès des pouvoirs publics pour améliorer les accès de nos chiens, pour améliorer différentes relations avec les métiers de bouche, avec les taxis, avec tous ces métiers de l'hôtellerie, etc. Pour lesquels ça s'améliore et de mieux en mieux, mais pour lesquels on avait parfois des refus et des incompréhensions de la part des gens.
Et puis, il y a encore du boulot. Hein.
Et il y a encore du boulot.
Ça s'améliore, mais il y a encore du boulot.
Ça s'améliore, mais il y en a encore.
Et je me demandais si parmi, justement, les quatre chiens guides avec qui tu as passé une partie de ta vie, il y avait un moment où tu avais été bluffé par un ou plusieurs de ces chiens-là et qui reste un souvenir marquant pour toi.
Alors, ce qui reste un souvenir marquant, moi, ça a été Dipsy. Je suis une fois arrivé, donc j'étais accompagné de personnes justement de l'école de Lyon, et on allait justement à la fédération. Et ce qui m'a bluffé, on arrive au TGV, on sort du TGV, on sort du quai, et là je vois mon Dipsy partir, gare de Lyon, petit chemin, il trace, et hop, direct il nous emmène au métro, comme ça, il a fait tout son petit chemin. J'ai rien eu à lui dire. Lui, il savait qu'on allait au métro. Il a dû avoir compris que souvent, quand on venait là, c'était ce chemin-là. Et je me demande toujours aujourd'hui comment il a pu savoir de quel côté de la gare on était arrivé.
Ah oui, surtout la gare de Lyon.
La vieille gare avec les voies à chiffres et la gare plus récente avec les voies à lettres. Donc, je me suis toujours demandé comment il avait su de quel côté on était pour savoir comment partir. Mais... j'ai envie de dire, il me l'a fait aussi bien à la gare de Lyon qu'il avait l'habitude de me le faire à la gare Pardieu, de Lyon-Pardieu. C'est pareil, gare de Lyon-Pardieu, je pouvais arriver à un train, hop, on descendait du quai, lui tout de suite, il filait au métro, pareil. Moi, j'étais à me dire, mais t'es sûr que tu vas bien là? Et puis à un moment donné, on lâche, on lui fait confiance. Puis d'un seul coup, quand on est sur l'escalator, qu'on reconnaît cet escalator du métro, on se dit, ah. Bravo mon chien.
Là c'est bon, il avait le bon à la sortie de Pardieu.
C'est ça.
Bon, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Auréo, je pense qu'il a beaucoup de défis aujourd'hui à la gare de Pardieu.
Ah, il a beaucoup de défis parce qu'elle a beaucoup changé, et... parce que les travaux sont encore en cours, pas complètement finis, mais...
Et elle change à chaque fois que je descends à Lyon.
Oui.
C'en est encore une autre.
Mais Auréo aussi à sa façon, il sait me surprendre et il apprend aussi, mais... j'ai envie de dire que c'est aussi de l'expérience que les chiens ont besoin d'acquérir. C'est-à-dire que les chiens, ils sont comme quelqu'un qui va passer le permis de conduire. Hein. Tant qu'on a le moniteur à côté, ça va. Le jour où on n'a plus le moniteur, il faut arriver à se lancer tout seul et puis se dire « ça y est, j'ai mon permis, je conduis, je suis tout seul dans ma voiture. » Donc le chien guide, c'est pareil. Quand il sort de l'école, finalement, il sait ce qu'il a à faire, mais il n'a aucune expérience. Et plus on va circuler avec et plus on lui donnera de l'expérience.
Oui, et puis... plus vous allez avoir une expérience commune aussi.
Aussi.
Je sais qu'il y a pas mal de choses qui sont très courantes les premiers temps. On apprend à vivre l'un avec l'autre. Et puis, au fur et à mesure, en fait, il y a des choses qui deviennent des automatismes pour l'un comme pour l'autre, dans la relation, quoi. Dans le guidage aussi, quoi.
Complètement. Pour parler de Georgie, et si on peut donner une troisième anecdote, j'ai été sur Paris au moment où il y avait tous les travaux pour ramener la ligne 12 à Saint-Lazare, ramener aussi la ligne 14, il y avait un peu tout ce bazar-là. Moi, j'avais une tendance à me promener avec le baladeur sur les oreilles. J'avais le baladeur sur les oreilles, la chienne aime gérer Saint-Lazare au changement, ligne 13, ligne 3, comme de rien. Alors que tous les jours, ça changeait de sens parce qu'ils faisaient des passerelles dans un sens, dans l'autre, parce qu'ils avaient besoin aussi de bosser, les gars, mais... j'ai jamais compris comment il s'est retrouvé là-dedans. Hein. Moi-même, pourtant, j'avais le baladeur sur les oreilles et puis j'étais, vas-y, je te fais confiance. Et la confiance, c'est de toute façon un élément essentiel entre les deux. S'il n'y a pas cette confiance-là, on ne peut rien faire.
Ça, c'est sûr que c'est tes yeux, quoi. Donc,
pleinement.
Si tu délègues pas le guidage, le fait de se déplacer, c'est compliqué.
Complètement.
Mais bon, ça se fait progressivement, en tout cas.
Oui. Tout à fait.
Et on parlait des rencontres. Alors, nous, on s'est croisés plusieurs fois. plus ou moins par hasard, de fait.
C'est ça.
Est-ce que toi, tu as fait des rencontres un peu exceptionnelles, alors peut-être avec toutes tes implications, tous tes engagements, que tu n'aurais jamais fait si tu n'avais pas été dans le monde des chiens guides?
J'ai eu l'occasion, effectivement, peut-être si j'avais pas eu des chiens guides, d'approcher, bah oui, certaines personnalités politiques, que ça soit de la ville de Lyon ou autre, hein, mais notamment Gérard Collomb, j'ai eu l'occasion de lui serrer la main. J'ai envie de dire que oui, ça forcément, ça ouvre des portes. On va aussi dans des lieux où j'aurais jamais été si j'avais pas eu un chien guide. Mmh. C'est sûr que l'Assemblée nationale, le Sénat.
En effet.
C'est des lieux dans lesquels j'aurais jamais été si j'avais pas eu un chien guide. Mmh. Et pourtant, avec la fédération, on a eu l'opportunité d'aller dans des lieux comme ça. Mmh. Donc aussi bien des rencontres que des lieux. Si j'avais pas eu le chien guide, oui. Après, le chien guide, même sur des rencontres classiques, on a des trucs qui marquent énormément. Moi, j'ai le souvenir d'être dans un tramway à Lyon, de discuter avec un monsieur. Je veux bien discuter 20 minutes parce que le trajet est un petit peu long. Il a posé plein de questions sur le chien guide, tout ça. Mm. Bon, chacun en arrive à son arrêt. Bonsoir, hop. La semaine d'après, je prends le TGV. Et là, j'entends contrôle des billets, tout ça. Bon, je sors mon billet. Et là, il me voit, il me fait « Ah, bonjour, c'est Christian, comment ça va ?» En fait, le mec était le contrôleur du TGV et c'est lui que j'avais croisé la semaine d'avant.
Ah oui, comme quoi vous étiez vu dans deux contextes tout à fait différents.
C'est ça. Et en fait, moi, je lui ai donné mon prénom, le prénom du chien. Il me fait « Ah, ça va, Virgile ?» Et puis il me fait « Bon, bah, Dipsy, il est là, je suppose. Hein. » Et là, j'ai trouvé ça excellent parce que finalement, on se dit « Mais comme quoi le chien guide marque énormément. » Je veux dire, ça va même plus loin, c'est que des fois, même les gens ne se souviennent pas de votre prénom, mais simplement de celui du chien. Mm. Donc, on va vous dire, ah bah bonjour Monsieur Oreo, bonjour Monsieur Dipsy, bonjour. Et c'est ça qui est très très drôle.
Ouais, alors moi je joue pas dans la bonne équipe, alors maintenant je m'en souviens, mais quand j'étais petite, si on parle avec mes parents, ma mère disait toujours que je me souvenais du nom des chiens, alors pas chien guide, hein, pas forcément, que j'en côtoyais pas.
Oui, oui. Bah...
Mais du nom des chiens de leurs amis, mais pas forcément du nom de leurs amis, voilà, c'était... Ça, j'avais un album de photos des chiens de leurs amis, souvent des photos de eux et moi, mais j'avais pas forcément le nom des amis, donc
eh ben voilà.
Des petites, c'était un peu ma déformation. Bon, je me suis rattrapée, hein, maintenant je me souviens aussi du nom. Mais en effet, dans mon répertoire, il y a toujours marqué Virgile CG Oreo, donc chien guide Oreo.
Ouais, bah voilà.
Et pour chacun de mes invités ou même de mes connaissances qui ont des chiens guides ou des chiens d'assistance, il y a les deux. Et...
Non mais c'est bien, ça permet de pas oublier.
Bah, l'un comme l'autre, le nom du chien ou le nom de la personne.
C'est ça.
Je ne dirai pas lequel j'oublie le plus souvent.
Ah non, mais ça c'est hein, perso. Ça.
Mais bon, vous formez des binômes de toute façon, hein, on le sait, vous le savez, et en effet, ça fait sourire quand les gens. Même si moi, je le dis souvent, les gens du quartier sont un peu perturbés parce que je suis famille relais, donc j'ai jamais les mêmes chiens. C'est même jamais forcément la même couleur ou la même race de chien, enfin si ce n'est qu'il y a un petit.
Mais c'est ça qui est drôle.
Il y a un petit modèle quand même.
Parce qu'après. Ah bah attends, mais t'avais pas un sable il y a deux jours, aujourd'hui t'as un noir.
Ouais, c'est oui, ça. Oui. Ou...
J'ai pris la bombe de peinture, j'ai décidé de lui faire une coloration.
C'est ça, ou même quand tu croises les gens au parc et qu'au final, toi, bah, tu sais comment s'appelle leur chien, tu connais un peu l'histoire du coup du chien parce que tu l'as vu avec l'autre, avec le conjoint, des fois ça m'est arrivé. Alors là, c'était encore plus bizarre, moi je savais tout du chien. Je connaissais pas la dame, je connaissais le chien parce que je l'avais vu avec le monsieur. Ah. Et en plus, elle me connaissait pas du tout et en plus, moi j'avais changé de chien. Enfin, bref, des fois, tu te dis, c'est rigolo.
Ouais. Ouais, complexe.
Ouais, ça fait des situations un peu bizarres. Puis les gens t'ignorent dans la rue parce que eux, ils ont l'habitude de te voir avec un chien. Donc des fois, quand je les croise avec le chien, bah, ils me remettent pas du tout. Quoi. Si moi, j'en ai plus.
C'est une vraie carte de visite.
Ouais. Et est-ce que tu aurais un pire et un meilleur moment à nous confier que tu as eu et qu'un de tes chiens guide ou plusieurs ?
Pire moment, je crois que ce qui est extrêmement désagréable et que je n'aime pas, et qui font partie des pires moments, c'est quand on nous refuse dans des endroits, mais surtout que ce n'est pas correct, c'est de mauvaise foi. Mm. Par exemple, une fois, j'ai voulu aller dans un resto, et là, on m'a dit « Ah non, mais la salle est pleine, on n'a pas du tout de place !» J'étais avec des collègues, ils m'ont dit « Non, c'était vide, il n'y avait personne. » Donc oui, c'est pas agréable, parce qu'on a envie de mordre les gens à ce moment-là, et de leur dire « Mais... » C'est extrêmement moche.
C'est de la malhonnêteté, quoi.
C'est de la malhonnêteté, ouais. Concrètement, c'est de la malhonnêteté.
Mm. Ou te proposer la terrasse parce qu'il n'y a plus personne à l'intérieur, il n'y a pas de place à l'intérieur, ouais, alors que ouais, visiblement il y en avait.
C'est ça. Moi, ça reste vraiment dans des moments que je déplore extrêmement et qui peinent un peu parce que. Je veux dire, surtout quand on sait qu'on nous ment, enfin, je trouve ça extrêmement peinant de profiter du handicap pour ça.
Et les meilleurs moments, pour finir.
Je crois que les meilleurs moments, c'est tous ceux qu'on peut vivre aux côtés de nos chiens et c'est compliqué d'en désigner un parce que je crois qu'un des plus beaux moments que j'ai vécu, notamment, ça a été les premières fois où j'ai pu, de façon autonome, emmener mon fils à l'école. Où j'avais cette fierté d'être... parce que j'ai toujours eu une très grande fierté d'être papa, forcément. Mais le fait d'avoir cette fierté de dire « c'est pas mon fils qui m'emmène à l'école, mais c'est bien moi qui l'emmène à l'école. » Et où là, j'y vais avec le chien. Je crois que j'ai toujours une grande fierté de ça. Ça reste vraiment dans des... Ouais. Parce que des très bons moments, je veux dire, on en vit plein. Au travers des rencontres, au travers de tout ce qu'on peut vivre avec les chiens au quotidien, de tout ce qu'ils peuvent nous montrer, nous faire, nous... Je veux dire, tout ça, c'est des... Majoritairement, ce sont de très, très bons moments qu'on va vivre. Mais je crois que voilà, à un moment donné, il faut arriver à en déterminer un. Même si c'est compliqué, ouais, je crois que c'est ce moment de l'emmener à l'école et de dire, voilà, je suis... J'ai mon handicap, soit, mais je le mets complètement de côté, je suis comme tout le monde et j'emmène mon enfant à l'école, et ça, c'est génial.
Oui, on ne se rend pas compte, quand on n'a pas les différents handicaps, que ça peut faire partie d'un geste plus ou moins, enfin, d'un geste quotidien, d'un déplacement quasi anodin. Mais en effet, comme tu le soulignes, c'était une grande victoire, et ça l'est toujours pour toi, en tout cas, d'avoir cette indépendance et d'être en adulte responsable sur ce chemin de l'école.
Ah ben, complètement, complètement. C'est vrai que ça me aussi bien... sur le chemin de l'école que sur tous les chemins que je peux prendre en prenant, j'ai envie de dire, différents, même transports en commun, etc. Enfin, moi, j'adore, quoi, parce qu'il y a des très, très bons moments qui font extrêmement sourire. Je vais en citer un deuxième, mais parce que ça me fait sourire aussi. C'est, j'ai testé je sais pas si tu as entendu parler des vélos Bim Boom sur Paris.
Non.
C'est un vélo taxi qui est sur Paris et donc, moi, je l'avais pris avec Oreo. Et donc, en fait, il y a le vélo avec assistance électrique devant. Nous, on est dans une petite remorque aménagée derrière le vélo. Et quand il fait beau, en fait, il laisse un côté, donc une des fenêtres, il la laisse ouverte pour qu'on puisse un peu profiter de l'air et tout ça. Et ce qui m'a fait extrêmement rire, c'est Oreo qui avait posé sa tête sur mes genoux, mais vraiment du genre... Je sens dehors, je regarde dehors et j'aime bien regarder ce qui se passe. Et ça, j'ai adoré parce que j'ai trouvé ça, mais j'ai si mince, c'est extraordinaire en fait, cette position qu'il avait prise à ce moment-là. Vraiment posée, genre concierge, quoi, un peu.
Un petit curieux.
Il se passe dehors, ouais, c'est ça. J'avais trouvé ça excellent.
Bon, bah, sur ces très bons moments. Merci de t'être confié à mon micro, de nous avoir raconté tout ton engagement dans les différentes associations, ton engagement d'administrateur.
Merci à toi également de cette invitation et puis merci de tous ces podcasts parce que c'est pas rien. C'est vrai qu'ils sont tous très intéressants. Donc merci vraiment à toi de les faire vivre et d'arriver à continuer à nous proposer autant de contenu et aussi riche.
Bah, j'espère en tout cas vous en proposer toujours longtemps. Et puis sans toi, sans les invités, ça, c'est moins possible. De toute façon, vous faites vivre le podcast aussi. Et d'ailleurs, je le dis là, je vais mettre en place un petit formulaire parce que je sais que on croise beaucoup d'histoires et j'ai pas toujours l'occasion d'écouter les propositions d'invitation. Donc voilà, je vais faire un petit formulaire si vous souhaitez être invité sur le podcast. Ça me permettra d'en savoir un peu plus sur chacun des auditeurs qui souhaitent être invités et de voir ce qu'on peut faire ensemble.
Exactement.
Eh bien écoute, merci beaucoup Virgile pour ton temps, pour ce témoignage, pour ton engagement, parce que j'ai hâte aussi qu'on se recroise plus ou moins par hasard.
Plaisir partagé.
Et puis, du coup, quand je redescendrai dans la région lyonnaise à l'occasion, je pense qu'on aura l'occasion de se croiser de toute façon.
Eh bien, j'espère bien.
Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci beaucoup, à très bientôt.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Virgile d'avoir répondu immédiatement à mon invitation, même si nous avons finalement enregistré de longs mois après. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver des photos de Virgile avec Oreo, mais aussi avec Georgie, Lansing et Dipsy sur futureshanguide.fr. Et très bientôt, la transcription intégrale de cet épisode. Et n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour ne rien manquer. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Alors, à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.